Goût de mon lundi prochain.
Votre nouveau phare dans la nuit.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Gouinement lundi prochain sur Radio Campus Paris, on vous propose deux interviews à mettre dans vos oreilles. Tout d'abord, on est parti visiter Violette & Co, la librairie lesbienne de Paris, qui a rouvert ses portes à l'automne dernier. Louise, l'une des libraires, nous raconte comment ce projet s'est relancé.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Loïse Tachon, j'ai 25 ans et je suis une des repreneuses de Violette & Co, également le libraire chez Violette & Co. Violette & Co, du coup, c'est une librairie féministe, lesbienne et LGBT qui a ouvert pour la première fois en 2004, qui a été créée par un couple de militantes féministes et lesbiennes, Christine Lemoine et Catherine Florian, qui a ouvert au 102 rue de Charonne dans le 11e arrondissement et qui a réussi à perdurer pendant plus de 18 ans. Déjà, c'est la première librairie officiellement lesbienne à avoir ouvert en France et aussi la première librairie à allier les aspects féministes et LGBT, qui a ouvert dans un contexte qui était assez réfractaire à ces idées-là, qui a reçu énormément de grands noms. Il y a Michel Perrault, Simone Veil, Gisèle Halimi, mais aussi Virginie Despentes, Léonora Miano, Paul Preciado, enfin Chloé Delhomme, Wendy Delorme, plein de personnes en fait qui étaient beaucoup moins connues à l'époque et qu'elles ont vraiment participé à faire connaître. Et Violette & Co, c'était connue pour sa sélection quasi exhaustive en fait de littérature lesbienne, d'essais féministes hyper pointues avec énormément de revues féministes. Elles avaient un fond assez incroyable et c'était aussi un lieu de rencontre parce qu'elles organisaient énormément de rencontres, ce qui est assez plutôt commun aujourd'hui dans la librairie, mais à l'époque ça l'était beaucoup moins, et des expositions, et du coup c'était vraiment un lieu de retrouvailles, et surtout en tant que cliente c'était un endroit incroyable où vraiment on entrait et on se rendait compte de l'immensité et de la pluralité des productions lesbiennes et féministes, quoi. On arrivait et on avait une étagère de littérature lesbienne immense. On disait waouh, en fait on a existé, on a écrit tout ça. Alors que d'habitude quand on entre dans une librairie, ça va être un ou deux livres. Ouais, c'était assez émouvant. Ça, c'était un peu la première saison, on va dire, de Violette & Co. En 2019, elles ont annoncé vouloir partir à la retraite. Et en janvier 2022, elles ont annoncé qu'elles allaient fermer définitivement, faute d'avoir trouvé des repreneuses. Et du coup, c'est à ce moment-là que nous, on est entrés dans l'aventure. Au début, on était deux dans le projet. Il y avait Léa Oriontas. On avait toutes les deux travaillé dans le monde du livre, dans l'édition. Et elle avait fait un mémoire sur une réponse féministe anticapitaliste à la crise du livre. Elle avait déjà pensé à une reprise éventuelle de Violette & Co en coopérative. Et il y avait toujours des rumeurs en fait sur le fait que Violette & Co, enfin il y avait un collectif qui allait le reprendre, des amis d'amis, des connaissances de connaissances. C'était un peu une évidence que quelqu'un allait le reprendre. Une librairie lesbienne, c'était un peu le rêve de toutes les personnes queer, de tenir une librairie féministe LGBT. Et donc on a eu cette conversation au Bonjour Madame début janvier en se disant ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire, un crowdfunding, une coopérative, ça, enfin voilà, on ferait ça comme ça. Et quelques jours plus tard, elles ont annoncé en fait qu'elles avaient fermé définitivement et qu'elles n'avaient pas trouvé de repreneuse qui leur convenait. Là, on s'est envoyé un message en disant mais ok, go en fait. Ça s'est un peu fait dans l'urgence en fait, dans cette urgence de c'est pas possible qu'encore un lieu lesbien disparaisse. J'ai passé quelques temps, enfin 2 ans, à faire des recherches aux archives lesbiennes. Et en fait, j'avais été époustouflée par la quantité de lieux lesbiens qui avaient existé et dont on n'avait absolument aucune connaissance. Alors même que c'était des lieux assez récents, alors que c'était des lieux qui étaient extrêmement populaires de leur temps. Et l'idée derrière le fait de reprendre Violette & Co, c'était oui, peut-être qu'une librairie lesbienne va se créer quelques années après la fermeture de Violette & Co. Mais en fait, l'idée, c'est de perpétuer une mémoire et de faire en sorte que ce lieu lesbien ne soit pas oublié et de vraiment l'ancrer dans l'histoire, et aussi de créer une vraie transmission entre les générations. Et donc on est allé les voir pour leur proposer notre projet de coopérative, de crowdfunding. Nous, on était persuadés que des lesbiennes, des féministes voulaient aller y mettre de l'argent. Donc on a fait un formulaire Google Drive qu'on a envoyé un dimanche soir comme ça sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter. Et en fait, au bout d'une heure, on avait 5000 euros de promesses de dons. Le lendemain matin, on avait 20000 euros de promesses de dons. Au bout de 3 jours, on avait 100000 euros de promesses de dons. On s'est dit, ah ouais, en fait, ça peut vraiment marcher. Et on peut vraiment récolter de l'argent parce que aussi un des blocages de ce qu'on avait entendu de potentielles repreneuses avant, c'était l'argent. En tant que lesbienne, on a une position assez précaire dans la société, on n'a pas forcément énormément d'argent de côté. Et après, demander un prêt à la banque pour un projet féministe et LGBT, lol, vraiment. Donc, on a vu que ça pouvait marcher. Je pense que ce qui les a touchés dans notre démarche, c'est aussi qu'énormément de reconnaissance pour le travail qu'elles avaient fait pendant 18 ans et qu'on voulait vraiment perpétuer ce qu'elles avaient fait et pas changer le projet. Évidemment, le projet allait changer parce qu'on était une nouvelle équipe, mais il y avait vraiment une volonté de continuité et de transmission de notre côté et qui était la même du leur. On a racheté le fonds de commerce, c'est-à-dire le nom, la clientèle, le fonds, le catalogue, leurs contacts, en gros. Et on a aussi racheté leur transmission. On a contacté des amis à nous qui se sont jointes au projet. Élise Frénois, Louise Bian, Lisa Damon, Hermie Imbert, Olivia Sanchez et Lucille Regour. On s'est lancé là-dedans, on a créé une association, donc Vuaetenkop, pour réunir les fonds pour rouvrir Vuaetenko. On a lancé du coup une campagne de financement sur Eloasso, avec un objectif de 150 000 euros. Et sur notre objectif de 150 000, on a récolté 172 000 euros. À notre connaissance, il n'y a pas d'autre librairie qui a réussi à faire autant en France. Alors que je pense que le milieu traditionnel de la librairie n'aurait pas misé là-dessus. Enfin, on le dit souvent, mais c'est réellement un projet collectif. C'est collectivement qu'on a réussi à reprendre la librairie. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient un peu à toutes les personnes qui ont donné de l'argent, du temps, des encouragements pour permettre sa réouverture. Enfin, je dis que c'est un projet collectif parce qu'on a été très, très soutenus par plein d'autres lieux collectifs, associations féministes, lesbiennes, LGBT, notamment le Bonjour Madame, qui est un bar militant féministe et queer à Paris dans le 11e, et à qui on a tout de suite demandé conseil. Enfin, c'était notre deuxième maison, on a fait plein de réunions là-bas, on télétravaillait là-bas, on a fait la signature de la session du fonds de commerce de Vuaetenko là-bas. On a été aussi beaucoup aidés par les mots à la bouche. Pendant tout le projet, on leur envoyait des messages, on allait les voir pour leur demander des conseils et ils ont vraiment été hyper présents. Pareil pour le bar à la folie qui nous a proposé de faire plein d'événements de soutien à Vuaetenko. Nous, on a pris l'habitude à chaque fois qu'on avait un blocage ou quelque chose qu'on ne savait pas faire, on faisait des appels sur les réseaux sociaux, par newsletter. C'est comme ça qu'on a trouvé nos architectes, qu'on a trouvé plein de personnes qui nous ont aidés bénévolement pour retaper tout ce local et construire les meubles, tous les matériaux aussi qu'on a utilisés, c'est des dons de bois, des dons de plexi. Le canapé sur lequel on est assis, c'est aussi un don. On a fait un appel à donner votre chaise à Vuaetenko. Du coup, toutes les chaises qu'on a, c'est des chaises qui nous ont été données. Et voilà, c'est vraiment tout le monde y a mis son petit grain. Et dans ce sens-là, ouais, je trouve que c'est un très beau projet pour ça aussi. Voilà, le premier projet, c'était de réunir de l'argent pour pouvoir ouvrir Vuaetenko. Et du coup, après, on a mené la seconde partie du projet à trois. Du coup, Olivia, Lucille et moi, on a transformé l'association en coopérative. Et on s'est lancé dans cette recherche de local qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. On apporte de nouveau, il y a plusieurs choses. On a rajouté un espace café. Quand on était chez Vuaetenko, c'était un lieu de passage où après on ne pouvait pas s'asseoir et discuter vraiment. Généralement, on allait dans le Libanais d'en face. On voulait vraiment ajouter cet aspect-là pour en faire plus un lieu aussi de refuge. Enfin, on trouve qu'à Paris, la sociabilité queer, la sociabilité lesbienne est beaucoup tournée autour des lieux de nuit, de bars, de l'alcool, de drogue éventuellement. Enfin, c'est très important de faire la fête, mais le fait d'avoir uniquement ces lieux-là, ça réduit en fait notre sociabilité à un certain espace. Et nous, on voulait vraiment en faire un lieu intergénérationnel, un lieu où les personnes féministes et queer timides ou neuroa puissent aussi aller, où des familles puissent aller. Et aussi, il y a une énorme scission entre les lesbiennes ou les personnes queer, disons, de moins de 30 ans et de plus de 40, quoi. On avait vraiment envie que ces publics puissent se retrouver chez Violette & Co, et pas seulement aux rencontres, aussi au café. Et on se rend compte que c'est le cas, et on se rend compte que ça fait beaucoup plaisir. On a vraiment des publics de tout âge, et ça, c'est la partie café qu'on a ajoutée. En fait, on a raconté l'histoire de Violette & Co. Je pense qu'on a un peu contribué à lui donner un aspect un peu historique et mythique, parce que le lieu vivait. Et nous, bah, pour les besoins de la campagne de financement aussi, bah, pour pouvoir motiver des gens et pour leur montrer l'importance que c'était, on leur a raconté de la façon dont pour nous c'était important, c'est-à-dire la première librairie officiellement lesbienne, première librairie féministe et LGBT en France. Et du coup, en fait, ça lui a donné une historicité. Voilà, ça a créé cet aspect un petit peu mythique. Et aussi, bah, on connaît très bien les réseaux sociaux. Il y a une des personnes qui travaille pour Violette & Co, Lucille, qui gère aussi les relations presse. Donc, je pense qu'on a donné beaucoup de visibilité sur des nouveaux réseaux. Elle fonctionnait beaucoup par papier et par newsletter. Et on a beaucoup utilisé Instagram... notamment, et il y a beaucoup de personnes qui ont découvert Violette & Co grâce à ça. Il y a un moment en fait où on a récupéré tous leurs contacts de leur newsletter, et nous on a aussi créé une newsletter où les personnes pouvaient s'inscrire au fur et à mesure, enfin toutes les personnes qui avaient donné à la campagne de financement pouvaient s'inscrire. Et à un moment on a recoupé les deux, on s'est dit bah, enfin il y avait 3000 dans la leur et 3000 dans la nôtre, on s'est dit bah ça va être les mêmes personnes, et il y avait 3 personnes en commun. Et en fait on s'est rendu compte qu'on avait touché un public complètement différent. Et aussi, on a développé l'aspect jeunesse, qui nous tenait énormément, énormément à cœur. Enfin, il y a vraiment un manque de représentation, déjà de familles homoparentales dans les livres, pour les jeunes, en fait, de représentation d'enfants lesbiennes, gays, trans, intersexes. Aussi, de livres qui vont à l'encontre des stéréotypes de genre, de livres qui ne représentent pas que des enfants blancs et blonds aux yeux bleus. Ça, on a beaucoup développé aussi l'aspect BD, parce qu'on pense que c'est aussi un bon moyen et un moyen très accessible de commencer à s'intéresser aux problématiques féministes. Et aussi, y a beaucoup d'autobiographies, de mémoires un peu en BD qui peuvent aussi permettre de comprendre un peu de l'intérieur certaines problématiques pour des personnes qui ne connaissent pas ces problématiques. On compte vraiment continuer les événements que faisait Violette & Co, qui étaient vraiment connus pour la qualité de leurs événements. Et on va faire surtout des rencontres autour de nouveautés, de romans, d'essais, de BD aussi, de films. Parce qu'on a également un grand espace au sous-sol qu'on appelle l'espace associatif pour accueillir divers événements culturel, notamment on peut faire des projections, on peut faire des tables rondes, il va y avoir des ateliers d'écriture. Pour nous, c'était très important l'accessibilité du lieu, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a mis du temps à trouver un local qui nous correspondait. Enfin, on a choisi un lieu où quasiment toute la librairie est au rez-de-chaussée, et on a vraiment réfléchi avec nos architectes à comment créer un espace où on peut circuler en fauteuil roulant. Mais oui, c'était un gros enjeu pour nous. Enfin, évidemment, ça fait partie des enjeux féminisme, la lutte contre le validisme. Et pour nous, ça allait être une contradiction de rendre cet espace accessible uniquement aux personnes valides. Enfin, on va essayer de mettre en place également des traductions LSF de nos rencontres. C'est des choses qui vont prendre un peu de temps, mais c'est vraiment une volonté de l'équipe. On dit que Violette & Co est une librairie féministe, lesbienne et LGBT+. Il y a des personnes qui nous demandent, depuis qu'on utilise cette formule-là, pourquoi on dit lesbienne deux fois. Pour nous, c'était vraiment important de faire ressortir l'aspect lesbien de Vieux & Co. Enfin, voilà ce qui a été écrit sur leur page Facebook et sur leur site, c'était librairie féministe et LGBT. Leur sous-titre aussi, quand elles ont ouvert, c'était la librairie des filles, des garçons manqués et de leurs amis. Donc il y avait toujours cette volonté à la fois de toucher les féministes, les personnes queer et aussi les personnes qui s'intéressaient à ces sujets-là, des alliés, des amis. D'un côté, elles étaient vraiment connues nationalement et internationalement comme librairie lesbienne de référence et c'était pas écrit quelque part. Je pense que nous, on avait vraiment envie de faire sortir cet aspect-là, un peu de sortir d'une sorte de non-dit. On a eu des commentaires de personnes qui ont dit « Mais si je ne suis pas lesbienne et LGBT, est-ce que j'ai toujours droit de venir ?» Oui, c'est drôle. Non, c'est pas drôle, c'est un peu terrible qu'à partir du moment où on dit que c'est un lieu qui est tenu par des lesbiennes et qui propose des ouvrages lesbiens et LGBT, des personnes se pensent exclues en fait. On a eu près de 2000 personnes à la soirée d'ouverture. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. On a fermé la rue tellement il y avait foule. Enfin, on savait que la réouverture allait réunir énormément de personnes. Honnêtement, on s'attendait à 500, 600. On ne s'attendait pas à ce nombre-là. Et du coup, le jour même, je crois, ou la veille, on a appris que l'autorisation pour fermer la rue avait été acceptée. Et du coup, on a pu faire une soirée avec la rue aux lesbiennes et aux personnes queer et aux féministes. Et ça, c'était quand même hyper symbolique pour nous. Du coup, tout s'est très bien passé. Il y avait foule, on avait de la place. Et je crois que ça a fait... Enfin, on nous l'a beaucoup répété, donc je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens qu'à cette soirée-là, la rue ait été aux lesbiennes et qu'on ait eu cet espace, en fait, pour s'exprimer, pour parler, pour se retrouver, en plus de la librairie. Ça va super bien depuis la réouverture. On a rouvert vendredi 13 octobre à 14h. En fait, ça faisait plus d'un an et demi que le projet, c'était de rouvrir Vieux & Co. Et vendredi 13 à 14h, quand les premières clientes sont entrées, on commençait à nous poser des questions sur des livres, à nous demander comment s'orienter dans la librairie. Enfin, moi, je me suis rendu compte, je suis là genre « Ah, ça y est, en fait, on a rouvert Vieux & Co. Maintenant, il y a une autre partie du projet qui commence. Maintenant, on est libraire chez Vieux & Co. Et maintenant, on doit gérer un lieu. » Et c'est vrai que cette transition entre tout le travail de réunir de l'argent, puis de gestion de projet, puis de rouvrir la librairie, et l'autre aspect du projet, c'est-à-dire de faire vivre cette librairie, il n'y a pas eu de transition. En fait, la transition s'est faite en une nuit, en quelques heures. Du coup, là, on est en train de découvrir encore une nouvelle partie du projet. Et il y a du monde en permanence. Ça nous fait tellement plaisir. Et on a des super bons retours et on espère faire de notre mieux pour que ça soit au niveau des attentes de tout le monde aussi. Voilà, on va faire de notre mieux pour continuer à avoir une super sélection, pour faire des événements intéressants et enfin, ce qui est très important pour nous, pour avoir un bon accueil et être vraiment disponible pour répondre aux interrogations, aux questions, pour faire des recommandations de livres, etc.
25,90 par carte, s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu veux un petit ça?
Non, ça ira, merci, je m'attends.
Et un petit marque-page?
Allez,
avec plaisir. Merci. Merci à toi.
Ensuite, le 8 mars dernier, on a rencontré Nabintou Mandi, chef du pôle chat pour l'association En Avant Toutes. Cette association fait de la prévention des violences auprès des jeunes et des personnes LGBTQIA+. On l'a interrogé sur son travail en complément de notre émission de mars qui abordera les violences au sein des couples lesbiens.
Alors, salut Nabintou, tu travailles pour l'association En Avant Toutes. Peux-tu te présenter et présenter ton rôle dans la structure ?
Ouais, moi je m'appelle Nabintou et au sein de la structure En Avant Toutes, je suis chef de service chat. Donc j'encadre l'équipe de toutes les répondantes qui sont au chat et qui sont une dizaine.
Peux-tu présenter l'association En Avant Toutes ?
L'association En Avant Toutes, c'est une asso qui a 10 ans cette année et qui a pour objectif de lutter contre les violences faites aux femmes et plus particulièrement aux jeunes femmes et aux personnes LGBTQIA+. C'est en 2016, on a créé un chat de première écoute et d'orientation spécifiquement pour ce public, après avoir fait le constat qu'il existait plusieurs structures, notamment en Île-de-France. Donc le chat, il est national, mais on était plus en lien avec les associations franciliennes. Et elles nous ont dit qu'en fait, le public qui était un peu hors radar, c'était les jeunes femmes 15-25 ans et les personnes LGBTQIA+. Parce que toutes les structures qui étaient un petit peu visibles et qui accompagnaient les femmes victimes de violences conjugales, elles avaient une communication qui était plutôt une communication orientée vers la femme 40 ans, mariée avec des enfants et plutôt en couple hétérosexuel. Et du coup, il y a une grosse question autour de comment est-ce qu'on touche un petit peu le public qui est au radar. On sait que les jeunes vont sur le net, ils posaient beaucoup de questions sur des forums, sur des blogs, ce genre de choses. Du coup, on a créé un site internet qui s'appelle Comment on s'aime, qui est un site internet qui parle de relations et qui ne parle pas forcément de violence, parce que les personnes qui viennent nous voir sur le chat, elles ne sont pas forcément conscientes qu'elles vivent de la violence quand elles viennent. Donc, on a créé ce site-là et adossé à ce site-là, il y a donc un chat de première écoute et d'orientation avec derrière des professionnels un peu champ psy, éduc, conseillère conjugale et familiale, juriste, qui viennent répondre et orienter par la suite si nécessaire.
Et qu'est-ce que ce travail t'a appris sur les violences, du coup plus spécifiquement sur les violences au sein des couples queer ?
Alors nous, en 2016, quand le chat a été monté, au départ c'était 2 après-midi par semaine et après assez rapidement il y a eu une plage horaire beaucoup plus élargie, notamment avec le confinement, parce que il y avait beaucoup de victimes qui étaient enfermées avec des personnes qui étaient agressives. Du coup, on a eu pas mal de personnes qui sont venues et ce dont on s'est rendu compte, comme notre communication elle est tournée vers les personnes LGBT aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient sur le chat et qui venaient que sur le chat et qui n'avaient pas forcément conscience et de ce qu'elles vivaient. Et qui, même si elles en avaient conscience, il n'y avait rien autour parce que toutes les associations qui existent et qui accompagnent sur les violences conjugales, très majoritairement, elles communiquent pour des couples qui sont hétérosexuels, pour des femmes hétérosexuelles. Et en plus de ça, même dans la façon dont on accompagne, c'est pas pensé, en fait. Dans le milieu du social, on dit beaucoup monsieur, madame, enfin voilà. Et il y a même un impensé sur le fait que les femmes peuvent être violentes. Du coup, c'est un petit peu tout ça qu'on a vu sur le chat progressivement. Et il y a un an et demi, avec toute cette expérience, on a décidé de créer une permanence d'accompagnement physique qui est à Paris, mais qui peut concerner plus largement que les franciliens, franciliennes. Et c'est une permanence qui est à destination... Alors, on l'a élargi là, plutôt personnes LGBT. Avant, on ne comprenait pas les hommes cis gays. Maintenant, ça concerne tout le monde. Mais c'est une permanence qui est dédiée à la communauté LGBT qui vit des violences conjugales ou des violences sexuelles. Enfin, je le précise parce qu'on a en plus de ça une expérience même physique, enfin, d'accompagnement physique de ces personnes-là. Ce qu'on a pu observer par rapport aux violences, c'est qu'il y a un gros tabou qui existe, notamment chez les lesbiennes, parce que c'est compliqué de parler de ce qui se passe de violent à l'intérieur de la communauté.
Vous avez remarqué une différence entre le tabou chez les lesbiennes et chez les gays, du coup ?
Comme au début, cette permanence, elle n'était pas forcément ouverte aux hommes cis gays.
D'accord.
On a plus d'expérience sur les relations queer et plus spécifiquement les relations lesbiennes.
D'accord.
Après, de ce qui peut nous revenir de façon différente, pas pour les mêmes raisons, il y a aussi un tabou chez les hommes gays.
Mmh.
C'est pas exactement les mêmes raisons, ça va plutôt chercher le fait de pas être un homme quand on vit des violences, le fait de devoir se défendre et du coup de pas être assez fort si quand on vit des violences, on se retrouve en position de victime, enfin qu'on n'est pas en mesure de répondre. Là où chez les personnes en couple lesbien, il va y avoir plutôt cette croyance que c'est pas possible de vivre des violences quand on est en couple lesbien, qu'un peu quand on sort de l'hétérosexualité, on sort des violences en fait sexistes et sexuelles.
Mmh.
Et du coup, c'est des personnes qui vont et soit se sentir en échec et pas forcément vouloir en parler parce que ça les renvoie potentiellement, pour certaines, à ce qu'elles ont pu vivre aussi dans des relations hétérosexuelles.
Mmh.
Soit pas vouloir en parler parce que c'est à l'extérieur de la communauté, parce que c'est pouvoir donner un peu le bâton pour critiquer cette communauté qui est victime hyper largement de lesbophobie, d'homophobie.
Comme si quand on est gay ou lesbienne, il fallait qu'on soit un peu exemplaire dans la manière d'être en couple et qu'on ne peut pas se permettre finalement de se délégitimer en parlant à quelqu'un des violences au risque de se prendre un « oui, bah, de toute façon, je te l'avais dit
». Ouais, je te l'avais dit » ou un « ah bah du coup, c'est pas que les hommes
voilà. ».
Et du coup, ah bah, tout le combat féministe et toute la dimension systémique de d'où viennent les violences, par qui elles sont portées, pourquoi, etc. Et ben c'est comme si ça s'effondrait, alors qu'au final, on peut se dire que dans les relations lesbiennes, la violence, elle n'est pas forcément systémique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mmh. Mais effectivement, elle n'est pas permise, elle n'est pas mise en place par le système. Pour autant, quand on vit dans une société qui est sexiste, eh ben, toutes les personnes au sein de cette société, elles grandissent, elles évoluent dans de la violence. Elles sont capables de la reproduire, peu importe l'orientation sexuelle, le genre, etc. Donc, c'est faux de dire que ça n'existe pas.
Le caractère systémique n'est pas présent, quoi.
Bah, le caractère systémique serait moins présent, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler.
Ouais.
On a aussi appris que c'est un public qui est victime, en fait. C'est un public qui, avant de parler de violence conjugale, bah, c'est des personnes qui ont vécu de la lesbophobie, c'est des personnes qui ont peut-être vécu du rejet dans leur famille, qui ont peut-être vécu des violences dans l'espace public, etc. Et du coup, ça fragilise beaucoup. Et c'est des personnes qui, quand elles ont voulu en parler, en général, n'ont pas forcément été écoutées. Du coup, aller vers des institutions qui sont homophobes et qui sont potentiellement sexistes, que ce soit volontaire ou pas, c'est très compliqué. Même quand il y aurait une volonté de le faire, eh ben, ça ne se passe pas. Et il y a beaucoup d'initiatives communautaires qui existent, et c'est essentiel en vrai, mais qui sont souvent pas forcément suffisantes, parce que quand on s'accompagne entre pairs, ça peut, et que tu connais la copine qui, etc., ça peut arriver à des choses qui ne sont pas optimales du tout. C'est pour ça que c'est nécessaire qu'il existe des espaces aussi qui prennent en compte le vécu des femmes lesbiennes, mais qui puisse faire un travail qui soit un peu plus du travail social, en fait. Même si le travail entre pairs est très intéressant, mais du coup, ça, c'est bien qu'il existe d'autres espaces pour pouvoir justement sortir de là et aussi pouvoir faire entendre cette parole-là ailleurs, plutôt que dans des espaces où on va peut-être dire « oui, bon, bah alors du coup, on va faire en sorte que vous ne vous rencontriez pas en manif ou ce genre de choses. » Parce que... Mais parfois, ce n'est pas suffisant pour une victime de faire des compromis en permanence. Quoi.
Donc, au sein même de la communauté, quoi. Parfois, ça peut amener à une forme d'isolement aussi de certaines victimes.
Oui, et parfois même, il y a besoin, et comment ça s'appelle, violence en milieu queer. Il y a un compte Insta d'une meuf lesbienne qui parle des violences conjugales qu'elle a pu vivre. Et elle, ça a été des violences physiques. Et parfois, c'est nécessaire aussi, même si on n'est pas toujours fan de la police, etc. Mais c'est nécessaire de porter ça devant la justice, etc. Parce qu'il faut se protéger, en fait.
Bah oui. Tu parles de violences physiques. Comment elles se matérialisent concrètement, les violences conjugales, et comment on peut les reconnaître ?
Alors nous, ce qu'on observait, c'est qu'il y a moins de violences physiques dans les couples lesbiens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violences conjugales, il y a beaucoup de violences psychologiques. Mm-hmm. C'est des violences psychologiques, des violences verbales, des violences sociales, c'est-à-dire empêcher de voir ses potes, empêcher de voir sa famille, enfin même juste en culpabilisant, oui, mais il m'aime pas, ouais, mais je trouve que ces potes-là, ils se moquent de toi, etc., ce genre de choses. Au bout d'un moment, la victime, elle a l'impression que si elle fait le choix de ne pas voir ses amis ou certains membres de sa famille, c'est une volonté propre, alors qu'en réalité, c'est de la pression qui est mise par ailleurs. Donc ça, c'est des violences qu'on retrouve au final dans tous les cas de violences conjugales. Elles vont peut-être porter différemment dans le cas de couples lesbiens. Ce qui revient beaucoup des personnes qu'on a pu accompagner, c'est soit la biphobie, soit la lesbophobie. Ouais. Beaucoup dire, de toute façon, t'es pas une vraie lesbienne parce que t'as eu des relations avant avec des hommes cis, ou alors... si jamais la victime se reconnaît comme étant bi, je vais pas te laisser voir tes collègues, etc. Parce que comme tu es bi, tu pourrais... Enfin voilà, toute la dimension biphobe de les bi auraient une sexualité plus libérée, plus délurée, etc. Donc il va avoir... ce type de violence un petit peu spécifique qu'on va retrouver. On va aussi retrouver évidemment tout ce qui est menace d'outing, auprès de la famille, qui peut mettre en danger la personne. Ça peut être de la violence psychologique et après ça peut aller plus loin si ça met en danger la personne.
ce qu'on a pu aussi voir, auquel on ne s'attendait pas forcément, c'était aussi la pression vis-à-vis des enfants. On ne s'attendait pas forcément à voir des personnes qui venaient nous parler aussi de parentalité. Et il y a aussi tout un enjeu autour de... Bon, maintenant, la PMA est passée, mais bon, évidemment, les couples lesbiens avaient des enfants avant. Hein. Et du coup, il y a tout un enjeu des mères sociales qui ne peuvent pas forcément voir leurs enfants si jamais la mère qui a porté l'enfant ne le veut pas et qui n'a pas pu avoir de processus d'adoption plénière. Donc ça peut être des configurations ou alors de la culpabilité sur la mère qui a porté l'enfant en lui disant « Ouais, mais du coup, tu as un lien privilégié avec l'enfant, c'est pas normal, c'est moi qui devrais l'avoir plus, etc. » Et donc ça, on a aussi vu arriver ce type de violences qui sont des violences psychologiques, mais un peu spécifiques, liées pour le coup au couple lesbien. Globalement, un petit peu les violences plus spécifiques, c'était celles-là.
Avec les violences classiques qu'on trouve dans les couples hétéros.
Ouais, dans tous les couples. Ouais.
Qui viennent s'ajouter finalement à ce type de violence.
Un bon outil qui peut être intéressant et que vous connaissez peut-être, c'est le violentomètre, et qui n'est pas inclusif, mais qui est pertinent quand même, et où vraiment, donc c'est une espèce de petite réglette où on va du vert au rouge, et où il y a ce qui est OK dans le couple jusqu'à ce qui n'est pas du tout OK dans le couple. Et donc, ça va passer par demander le consentement dans le couple, ça c'est OK sur différentes choses, et puis après, commencer à imposer des choses, à interdire des choses. Et donc, c'est un petit peu ce que je disais, tout ce qui est violence sociale, violence sexuelle, évidemment, violence physique, violence psychologique.
Peut-être que du coup, tu peux me dire comment les victimes, comment vous pouvez accompagner les victimes à sortir de la relation violente, comment on peut faire pour accompagner aussi, si on a aidé une connaissance, une amie.
Nous, du coup, quand les victimes, elles viennent sur le chat, donc ce que je disais, souvent, elles ne sont pas forcément conscientes de ce qui se passe. Et d'ailleurs, l'une des phrases qui revient souvent dans le cas de couple lesbien, c'est « si ça avait été un homme, je serais partie ». Mais là, comme c'est une femme, j'ai pas l'impression que c'est de la violence. Ou alors, je me dis, oui, mais j'ai l'impression que... Enfin, vu qu'il y a une connexion, notamment en termes de vécu traumatique, qui peut être plus importante, parce qu'enfin, on se retrouve face à une personne qui, potentiellement, a vécu de la lesbophobie, qui a vécu plein de choses similaires. On a tendance à se projeter un petit peu sur la personne, à projeter des choses sur la personne de son propre vécu et à avoir du mal à dire stop, en fait, à mettre plus clairement ses limites. Du coup, nous, quand les victimes, elles viennent sur le chat, elles sont, ou même au sein de la permanence, elles sont pas forcément toujours conscientes. Souvent, c'est pour parler, c'est parce que elles sentent qu'il y a des choses qui sont pas OK, sans oser. C'est souvent la problématique aussi des personnes qui ont été éduquées comme des femmes. Ce manque de légitimité à dire ce que je vis et ce que je ressens est réel et légitime. Il va avoir tout un travail d'abord de définir à quel point la relation elle est dangereuse ou pas, pour savoir comment on oriente et à quel point on peut intervenir en fonction. Et après, il va avoir tout un travail de déconstruction, de donner des outils, comme par exemple le cycle des violences, qui est un cycle utilisé pour définir les violences conjugales, et où en fait, ces quatre phases, ça se trouve assez facilement sur Internet, ces quatre phases où on va passer de montée de la tension, acte violent, et ensuite ça redescend et on finit sur la lune de miel où tout va mieux, la personne agressive va avoir tendance à s'excuser, etc. Et du coup, ça va fortifier la croyance chez la victime que en fait cette personne peut changer et du coup on reste dans la relation et souvent c'est un cycle qui s'accélère avec le temps. Donc on leur donne ces outils-là, on leur dit voilà, le cycle des violences c'est ça, les stratégies de l'agresseur c'est ça, est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Ça veut dire que vous vivez des violences conjugales, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, où est-ce que vous en êtes? Et je pense qu'une une clé assez importante et pour les victimes et pour les personnes qui accompagnent, parce qu'on a aussi des témoins sur le chat, c'est respecter la temporalité de la victime. Parfois, en tant que témoin proche de victime, on se sent extrêmement impuissante. On aurait envie de la ramasser avec ses gosses.
Mais pourquoi tu pars pas ?
Exactement. Et c'est pas la bonne solution. Donc, de lui dire ou d'agir quand on est même témoin des violences, d'intervenir, c'est assez contre-intuitif, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Déjà, intervenir, c'est... On sait pas ce qui se passe quand on part de l'appartement, par exemple. Est-ce que la personne agressive, elle va devenir encore plus agressive ? Et parce que si jamais la victime, elle n'est pas à ce moment-là, dans sa temporalité, prête à partir ou prête à se dire qu'il y a un problème,
Juste, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter d'en parler pour pas entendre en permanence tous ses proches lui dire « en fait, il faut que tu partes, pourquoi tu restes, etc. » Et du coup, ça, ça participe à l'isolement, qui est une des stratégies de l'agresseur, isoler les victimes. C'est plus les victimes sont isolées, plus c'est compliqué de partir, parce qu'elles sont toutes seules avec leur emprise. Et il n'y a personne qui leur dit « mais en fait, t'es trop forte, mais attends, mais tu peux t'en sortir. » Et elles sont, elles ont cette impression que jamais elles pourront s'en sortir sans l'autre. Ça, c'est l'emprise. Mmh. Et du coup, en tant que témoin, le mieux, c'est d'être là, au calme, en toute tranquillité, d'envoyer des messages. « Comment ça va ? Est-ce que tu veux sortir ?» Elle dit non. Souvent, elles disent non parce que c'est compliqué, parce que toute leur vie se recentre sur les violences qu'elles vivent et sur ce couple qui prend énormément de place. Et on recommence la semaine d'après, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elles disent oui et qu'on puisse commencer à peut-être en parler si elles veulent. Et c'est toujours respecter la temporalité. J'ai aussi été répondante sur le chat avec les collègues que j'encadre maintenant. On en parle beaucoup de ça fait quoi comme frustration de savoir que parfois il y a même des enfants derrière. Mais en fait, c'est pas efficace. Il faut se dire qu'accompagner une personne victime de violence, c'est un petit peu comme une course de fond. Ça prend du temps. Ça peut prendre des années. En tant que témoin, il faut aussi se... Nous, quand il y a des témoins qui viennent, on leur demande si elles sont suivies, si elles peuvent en parler dans des groupes d'amis, si elles peuvent en parler même à leur psy, si elles ont accès à un professionnel de la santé mentale. Parce que oui, ça peut être frustrant et du coup, il faut aussi être accompagné là-dessus. Le mieux, c'est juste d'être là et d'être à l'écoute et de montrer qu'on est disponible, quoi.
Merci beaucoup.
Les autres structures vers lesquelles on peut orienter, il y a le CIDFF de Paris qui est un espace où on peut avoir accès à des personnes qui, des juristes en fait, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des victimes, des femmes victimes de violences. Il y a une permanence queer qui est destinée aux personnes queer avec des personnes qui sont formées dessus, qui accueillent toute la communauté LGBT et spécifiquement sur les violences conjugales. Je pense que c'est écrit sur le site internet. En tout cas, c'est possible de téléphoner au CIDFF de Paris et de demander. Et parfois, ça peut être rassurant d'être avec des personnes qui ne vont pas mégenrer ou d'être avec des personnes
qui sont
safe
formées sur, exactement, sur le sujet.
Exactement. Donc, il y a le CIDFF de Paris. Au centre LGBT de Paris, il y a aussi un groupe de parole, je crois, une fois par mois. C'est justement la personne qui a créé Violence en milieu queer, le compte Instagram qui a créé ça. Je pense que c'est précieux de aussi pouvoir en parler entre victimes lesbiennes. Alors, je ne sais pas si c'est que lesbiennes. Faudrait voir, mais en tout cas, il y a ça. Et après, nous, ce qu'on recommande également, c'est le réseau Ma Psy est lesbienne, qui est un réseau de psy formés, féministes, certaines formées dans le psychotrauma, qui peuvent pratiquer le MDR, etc. Ce réseau existe, elles sont vraiment top. Aussi, c'est des psys libérales, donc c'est payant, mais...
Et au CIDFF de Paris, il n'y a pas une psychologue ?
Si, il peut y avoir une psychologue. Je ne sais pas si cette psy...
Elle est spécifiquement si elle est formée sur l'accompagnement des personnes queer, par contre.
Okay. Du coup, je sais que ça se met en place progressivement. Mais en tout cas, des structures spécialisées, ces trois-là, elles sont bien. Et pour les franciliennes, malheureusement, après, plus largement, je n'ai pas trop de ressources.
Et du coup, la police aussi, si on se sent en danger.
Ouais, la police, si on se sent en danger ou même si on veut porter plainte parce que, à un moment donné, c'est nécessaire dans certaines démarches. Nous, ce qu'on conseille en général, c'est d'aller sur le chat de la police. La police a un chat où derrière, c'est des personnes formées aux violences sexistes et sexuelles. Et en plus de ça, ce chat permet de... Il donne des rendez-vous, en fait, directement. Et du coup, ça évite d'aller en commissariat et d'attendre après la personne à qui on a
voulu... De tomber sur l'équipe de nuit.
Quand on est victime, plus c'est safe, mieux c'est. Donc voilà, le chat de la police, il est bien aussi...
Où est-ce qu'on peut vous trouver ?
Pour retrouver le chat, le plus simple, c'est d'aller sur commentsem.fr, qui est du coup le site internet qui est lié au chat. Dès qu'on est dessus, le chat apparaît en haut à droite et qui est aussi un site intéressant juste pour ce qu'il dit, parce qu'il parle de relations saines. Il y a plein d'articles, des quiz, des trucs comme ça. Ça peut même être intéressant juste d'aller lire, même si on n'est pas prêt à parler. Et sur le site de l'association En Avant Toutes, enavanttoutes.fr, je suppose, il y a notamment l'adresse de la permanence, l'adresse mail.
Et pour avoir accès à la permanence, il suffit juste d'envoyer un petit mail qui explique un petit peu la situation. Et juste pour refaire un point sur cette permanence, c'est une permanence d'accompagnement social et psychologique. Donc, ça donne accès à soit une travailleuse sociale, soit une psy pour pouvoir parler de violence conjugale.
Et le chat, il est ouvert toute la journée, ouais. Toute la nuit?
Non. Et le chat, il est ouvert de 10h à minuit du lundi au jeudi et de 10h à 21h les vendredis et les samedis.
Donc si on veut parler de nos relations, si on a des doutes aussi sur la manière dont ça se passe dans notre couple, voilà,
tout à fait.
Tout à fait venir échanger avec des téléconseillers.
On dit répondante.
Répondante.
Et je l'ai peut-être pas précisé, mais c'est un chat donc, où on permet d'avoir des discussions qui sont assez longues, puisque c'est entre 45 minutes et une heure. Et c'est un chat sur lequel on peut revenir, on donne un petit pseudo au début, et après, c'est possible de redonner son pseudo. Et puis nous, on a un petit suivi, on fait des fiches pour savoir un peu où on est la personne. Du coup, c'est pas un one-shot. C'est possible de revenir et de réfléchir et de relire le chat et de se dire « Ah ouais, machin ». Je trouve que c'est ce qui rend l'outil aussi un peu pertinent, vu que la conscientisation des violences peut être assez longue.
Bah, merci beaucoup.
De rien, merci à vous.
Merci d'avoir écouté Gouinement lundi prochain, l'émission faite par et pour des personnes lesbiennes, bi et pan, à retrouver un lundi sur quatre sur Radio Campus Paris 93.9 FM. À bientôt.